La Société historique de Montréal et la Fondation Lionel Groulx présentent « Nouveau regard sur notre histoire », une émission signée Jean-Charles Désiel. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire avec « Notre histoire et nos racines » sur les ondes de Radio-VM. Au microphone, Éric Lebel. Ce soir, nous débutons l'émission avec l'entrevue qu'a accordée à notre collègue Jean Descarrés, Claude Morin, ancien ministre des Affaires intergouvernementales dans le gouvernement Lévesque. Claude Morin vient de faire paraître aux éditions du Boréal le 23 septembre dernier l'ouvrage intitulé « Je le dis comme je le pense ». Et en seconde partie de l'émission, nous vous proposons d'autres extraits des mémoires de Marcel Mas, cet historien, homme politique et ancien ministre, décédé le 25 août dernier. Bonne émission, Mesdames, Messieurs. Nous poursuivons ce soir notre entrevue avec Claude Morin, qui nous accueille dans sa maison à Sainte-Foy, où il habite depuis les années 60. Rappelons que Jean Descarrés, qui est aussi auteur, a déjà commis un livre sur Claude Morin intitulé « Dans l'œil du sphinx », paru chez VLB Éditeur en 2005. Ce livre porte sur le rôle de Claude Morin dans le développement des relations internationales du Québec.
Donc, M. Morin, vous êtes né à Montmorency, près de Québec, le 16 mai 1929. Vous êtes l'aîné d'une famille de 7 enfants. Votre père était médecin, votre mère était commis de poste. Tous deux étaient de Saint-Jean-Port-Joli, petit village connu pour ses artisans du bois. Vous avez été pensionnaire chez les Oblates, une congrégation religieuse catholique. Vous allez faire des études chez les frères maristes du collège Saint-Grégoire de Montmorency. Vous allez faire votre cours classique au petit séminaire de Québec. Et ensuite, ce sera l'Université Laval et la Faculté des sciences sociales du Père Lévesque, très bien connue au Québec, et ensuite l'Université Columbia à New York. J'avais comme première question, si c'était évident, dès votre plus jeune âge et pour vos parents, que vous feriez de longues études?
C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que je ferais de longues études parce que j'aimais apprendre, j'étais curieux de tout, il fallait que j'aie des réponses à toutes les questions. Et puis, j'en avais discuté avec mes parents. Et à l'époque, on n'avait pas terriblement le choix. Bien, pour faire de longues études, il fallait entreprendre le cours classique. C'était pas terriblement cher, mais il n'y avait pas de bourse d'études comme il y en a aujourd'hui. Mais finalement, mes frères et moi avons fait le cours classique. Et après le cours classique, il fallait prendre une profession à un moment donné. Moi, j'ai choisi la Faculté des sciences sociales de Laval. Parce que j'avais vécu dans un milieu ouvrier, mon père était médecin à Montmorency, et la grande fournisseuse d'emploi à Montmorency, c'était la Dominion Textile. Alors, c'était des ouvriers qui étaient mes amis, ou des fils d'ouvriers, plus exactement. Et je voyais bien qu'il y avait une énorme différence entre eux et des gens de la ville de Québec. Donc, les différences sociales m'ont frappé au point de départ. J'ai voulu comprendre. Il y a eu des grèves. Et je m'intéressais à la société, comment améliorer la société. C'était très vague dans mon esprit, mais... Et il y avait à Laval une faculté jeune qui venait d'être lancée quelques années avant, la Faculté des sciences sociales. Et j'ai décidé, après mon cours classique, de me lancer en sciences sociales. Mais là, il faut dire que les perspectives d'emploi pour ceux qui allaient dans cette faculté n'étaient pas réjouissantes. Parce qu'à Québec, le gouvernement Duplessis de l'époque refusait tous les diplômés de la faculté, parce que c'était une faculté considérée comme gauchiste. Mais j'y étais quand même. Ben, je me suis dit, bon, ben, je finirais bien par trouver quelque chose. Puis les études m'intéressaient. Et à l'intérieur des études, j'ai décidé de me spécialiser en économie, devenir économiste. C'était pas une profession très fréquentée à l'époque. Mais quand j'ai fini, j'achevais mes 4 années à Laval, j'avais pas de grosses perspectives d'emploi. Et sur les entrefaites, à la suite de conversations que j'ai eues avec le père Lévesque, qui était le doyen, et qui voyait que j'étais curieux de tout, il m'a proposé avec le directeur de l'école de service social de me trouver une bourse pour aller étudier où je voudrais au monde, en France, par exemple à Paris, ou ailleurs, aux États-Unis. Et j'ai tout de suite accepté la bourse parce que il m'avait annoncé qu'à mon retour, je pourrais devenir professeur à l'Université Laval, à la Faculté des sciences sociales, ce qui, je le dis maintenant, était une sorte de rêve de jeunesse, parce que c'était une profession, professeur, qui m'obligeait à lire ce que j'adorais faire et à étudier ce que j'adorais faire. Alors, c'était une offre absolument extraordinaire. La bourse n'était pas énorme. Mes parents ont contribué. J'ai travaillé l'été pendant quelques étés pour accumuler des sous. Et finalement, je me suis inscrit à l'Université Columbia à New York pour étudier les problèmes de la sécurité sociale, la lutte à la pauvreté, avec des choses comme celle-là, l'organisation des services pour le public. Et j'ai choisi cette université-là, université américaine, pour deux raisons. La première, parce que à peu près tout le monde qui allait étudier à l'étranger, à l'Université Laval, allait en France. Moi, je trouvais que, je sais pas, comme on était à côté des États-Unis, c'était plus pratique. Puis, il y avait aussi l'anglais qu'il fallait quand même finir par connaître. Alors, j'ai opté pour les États-Unis. Mais il y avait une deuxième raison. C'est que j'avais l'ami de ma sœur, un médecin, qui était d'origine roumaine, qui faisait lui aussi ses études à New York. Alors, donc, j'avais déjà un ami sur place. Et c'est les deux raisons qui ont fait que j'ai été à New York, une ville que d'ailleurs je voulais connaître. J'ai fait mes études là, j'ai obtenu une maîtrise de l'Université Columbia et comme prévu, je suis revenu à l'Université Laval comme professeur.
Monsieur Morin, vous parlez dans votre livre de vos lectures. Manifestement, elles ont eu une grande influence sur vous, sur votre cheminement de carrière. Vous écrivez dans votre livre « Quand je jette un coup d'œil rétrospectif sur ma vie, je me rends compte que ma passion, c'en est une, pour la lecture a été encore plus déterminante que je ne l'avais d'abord pressentie. »
Quand je dis dans le livre que j'aurais jamais pensé que cette passion pour la lecture serait aussi déterminante, c'est que, à un moment donné, j'ai eu l'occasion, on m'a proposé, d'écrire des discours pour le premier ministre Lesage, et je me suis rendu compte que les connaissances que j'avais accumulées d'ordre social, économique et tout, en plus de mes études, me servaient énormément pour la rédaction de ces discours. Comme ça m'a servi énormément aussi pour mes cours, parce que j'enseignais, comme je l'ai dit, à l'Université Laval. Donc, j'aurais jamais pensé, quand j'étais tout jeune, que ça aurait l'importance que ça a pris depuis.
Après votre séjour à l'Université Columbia, M. Morin, c'est le retour au Québec. Vous allez commencer à enseigner très tôt à l'université, à l'âge de 27 ans. C'est aussi quand même à cette période que rapidement le milieu politique va vous rattraper. Vous allez collaborer de près avec le premier ministre Jean Lesage. En fait, de 1960 à 1966, vous allez devenir son principal rédacteur de discours. Vous écrivez « D'octobre 1960 à avril 1966, le soir, les jours de congé et les fins de semaine, j'en vins à rédiger environ 200 discours et allocutions pour le sage, et, contrairement à mon exigence de départ, sur bien des sujets autres que les questions économiques et sociales. » Ma question, comment ça s'est passé pour vous? Comment on devient rédacteur de discours pour le premier ministre du Québec?
Alors, c'est arrivé, je pense que ma vie est le résultat d'un concours de circonstances. Il est arrivé des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Il faut que je dise que quand je suis devenu professeur à l'Université Laval, j'étais tout jeune, et pour moi, là, j'avais trouvé la carrière qui me convenait, et je n'avais pas d'autres ambitions que de la poursuivre le plus longtemps dans ma vie. C'était simple, clair, et il y avait deux mois d'été relativement libres, où je lisais plus que d'habitude, puis il y avait les cours, j'adorais ça, j'aimais la vie universitaire, donc pas d'autres ambitions que ça. Sauf que je m'intéressais à la question politique, parce que mon père s'y intéressait aussi, je suivais l'actualité, et j'étais anti-duplessiste, comme toute ma faculté d'ailleurs, ou à peu près toute. En 60, les libéraux ont été élus, les libéraux de Jean Lesage. Et il y avait un de mes collègues à l'université, qui était professeur d'économie, René Tremblay, qui est devenu sous-ministre. Lesage a demandé d'être sous-ministre, est devenu sous-ministre de l'Industrie et du Commerce. Et René Tremblay, à un moment donné, reçoit de Lesage la commande de préparer un texte pour un discours économique que Lesage doit faire. Et René Tremblay, qui était occupé parce qu'il était sous-ministre, me connaissant bien, il dit « Tu ne pourras pas me préparer des notes que j'utiliserai pour le discours de Lesage. » J'ai préparé quelques notes que j'ai données à Tremblay. Et à ma grande surprise, le dimanche suivant, à la télévision, je vois le premier ministre Lesage qui lit un texte, parce qu'il ne faisait jamais de discours sans texte, qui lit un texte dans lequel je retrouve intégralement des phrases de ce que j'avais tapé pour lui dans le projet de discours que j'avais donné à René Tremblay. De fil en aiguille, on demande au secrétaire de Lesage de me parler, de me rencontrer, parce que René Tremblay ne voulait plus continuer à écrire des discours. Et ce secrétaire de Lesage, il s'appelait René Arthur, qui était un personnage extraordinaire, d'une culture immense, qui faisait de la radio à Québec, et qui était, je le dis en passant, le père d'André Arthur, d'un autre genre, disons. Bon, alors, je vois René Arthur, et il me propose de faire des discours pour Lesage. Et moi, je savais la méthode dactylographique. Il y avait un frère Maurice qui nous l'avait gratuitement enseigné. Et je remercie le bon Dieu d'avoir eu cette connaissance-là, parce que je tapais vite à la machine à écrire. Autrement, faire ça à la main, j'aurais pas été capable. Alors, j'ai commencé à écrire un autre discours pour Lesage au mois d'octobre 1960. Et j'avais dans ma tête qu'on me demanderait peut-être 2 ou 3 fois par année, 4 fois par année, d'écrire des discours, et je lui ai dit à René Arthur, j'ai dit « Bon, OK, mais il faudrait que ce soit des discours qui portent sur des questions économiques ou sociales, le reste, je suis moins familier. » C'est pas ça du tout qui est arrivé. J'ai écrit en tout autour de 200 discours, certains de 15 pages, certains de 5 pages, pour Lesage, d'octobre 60 à juin 66, et ça, je faisais ça, évidemment, en plus de mon enseignement à l'Université Laval, au début, parce que je suis devenu sous-ministre entre-temps, c'était une autre histoire, ça. À un moment donné, là, M. Lesage a voulu me rencontrer, au début de 61, et là, il m'a proposé une chose absolument que je trouvais invraisemblable, d'écrire son discours du budget. Le premier discours du budget qu'il prononcerait, parce qu'il était ministre des Finances aussi, comme nouveau chef du gouvernement. Heureusement, c'est pas moi qui avais besoin de préparer les chiffres, mais ce qu'il voulait, lui, c'était que je développe des aspects politiques, des réformes à entreprendre, des choses qui étaient déjà dans le programme du Parti libéral, des idées que j'avais moi-même. J'ai écrit ce discours-là, et il a servi à Lesage. Celui-là avait 80 pages, et non pas 12 comme les autres. Je l'ai travaillé avec lui les dimanches après-midi. Donc, bref, je suis devenu rédacteur en chef des discours de Lesage. Et je pense que mon style devait lui convenir, parce qu'au fond, je l'avais vu faire, je l'avais entendu, et je l'imitais un peu en écrivant. Je m'adaptais à lui, ça va de soi. Et à un moment donné, il m'a proposé, dès 61, de devenir sous-ministre d'un nouveau ministère qui n'existait pas encore, mais qui avait été créé par loi, qui s'appelait le ministère des Affaires fédérales provinciales. Et je voulais absolument pas, j'ai dit tantôt que ma vocation, c'était d'être professeur à l'université, ça m'intéressait pas du tout de m'en aller au gouvernement. J'ai refusé, en 61. Et Lesage, je pensais qu'il serait fâché, mais non. En 62, il y a eu la campagne électorale pour l'électricité, et là, Lesage m'a demandé de l'accompagner pendant la campagne électorale, un mois et demi, en demandant congé à ma faculté. Je serais en congé sans solde, ce serait le Parti libéral qui me remplacerait mon salaire. J'ai accepté parce que, d'abord, ma faculté était d'accord, puis ensuite, c'était une expérience extraordinaire. Je l'ai accompagné dans tout le Québec. Et j'aurais jamais pensé qu'un de ces jours, l'expérience acquise pendant cette campagne électorale, je voyais comment ça s'organisait des soirées politiques, comment on parlait au public, etc. J'aurais jamais pensé que ça me deviendrait pratiquement utile quand moi-même je ferais de la politique plus tard, mais j'avais aucune idée à l'époque que ça m'arriverait.
En 1963, vous allez devenir, malgré vous, sous-ministre des Affaires fédérales provinciales. C'est un ministère nouvellement créé par Lesage, qui va être piloté par vous, et qui est sous la responsabilité directe du premier ministre Lesage. Vous allez, par le fait même, être responsable des relations fédérales provinciales et de la diplomatie québécoise, qui est une diplomatie naissante, pratiquement embryonnaire à l'époque. Vous êtes, avec le recul, on le sait, l'un des principaux artisans de l'émergence du Québec sur la scène internationale. Est-ce que vous doutiez, M. Morin, qu'en intégrant la fonction publique au milieu des années 60, vous alliez joindre du même coup les rangs des futurs artisans de la Révolution tranquille? Je pense au Arthur Tremblay, Michel Bélanger, Roch Bolduc, Jacques Parizeau, et j'en passe.
Il faut dire que quand je suis arrivé, devenu sous-ministre en 63, il n'était pas tellement question de révolution tranquille. Je pense que c'est une expression qui est devenue consacrée par la suite. Alors, ce qui s'est passé, pour vous le dire simplement, c'est que comme j'avais comme patron le premier ministre pour les questions fédérales provinciales, mais qu'à l'époque, M. Lesage n'était pas un partisan de l'étanchéité des responsabilités, il m'a dit, ben, vous êtes économiste, vous connaissez les questions sociales, je vais vous demander de participer à des réunions de fonctionnaires sur diverses réformes possibles. Et c'est comme ça que je me suis mis à faire partie de comités dont un s'occupait du régime de rente du Québec, où j'ai revu pour la première fois depuis mon enfance un de mes grands amis qui était Claude Castonguay. Je le vois à Saint-Jean-Port-Joli avec lui quand j'avais 7 ou 8 ans. Là, je l'ai retrouvé des années plus tard. André Marier, qui est à l'origine de l'idée de caisse de dépôt. André Marier, qui est décédé maintenant. Je le dis parce que c'est peu connu. Donc, j'ai participé à un tas de comités desquels sont sorties diverses réformes qui ont caractérisé la Révolution tranquille. Alors, dans ce sens-là, oui, il n'y a personne qui a inventé la Révolution tranquille comme telle. C'est pas Lesage lui-même. Lesage n'est pas arrivé ici avec un plan de rénovation totale du Québec. Peut-être Georges-Émile Lapalme, qui est un de ses ministres, avec des idées, mais pas peut-être qu'il avait des idées, il y en avait. Mais c'est un concours, là aussi, de circonstances et de personnes qui s'adonnaient au même moment, au même endroit, dans la même situation. Et le Québec était le Québec de l'époque. C'était mûr pour qu'il arrive quelque chose comme la Révolution tranquille. Ça s'est fait au fur et à mesure. Puis à un moment donné, on a regardé ça. Des gens, des observateurs, des journalistes, des analystes ont dit « Ah, ben c'est une Révolution tranquille. » Alors c'est comme ça que l'expression... Je ne sais même pas qui a inventé l'expression, c'est pas moi en tout cas.
Vous allez, ironie du sort, comme sous-ministre, vous allez passer plus de 8 ans et demi dans le même poste et en même temps côtoyer 4 Premier ministre, des premiers ministres aussi différents que Jean Lesage, Daniel Johnson, Jean-Jacques Bertrand et Robert Bourassa.
C'est peut-être la chose la plus étonnante. D'abord, quand j'ai accepté d'être sous-ministre, je me suis dit en moi-même, et je l'ai dit à ma faculté, je vais faire un stage d'un an dans la fonction publique. Je ne l'ai pas dit à Lesage. Je voulais m'en revenir. Après un an, j'aurais pris de l'expérience. C'est bon qu'un professeur d'université sorte de sa tour d'ivoire à un moment donné. Alors, bon, OK. Mais quand ça a été le temps de partir, mettons, en 66 au changement de gouvernement, là, Lesage lui-même, je l'ai dit tantôt, m'a dit « Non, vous restez. » Et puis je me suis dit « que Daniel Johnson ne doit pas de moi, le nouveau premier ministre. » Daniel Johnson m'a dit « Non, aucun problème, parfait, je sais que vous êtes loyal. » Bon. Quand Johnson est mort, il ne peut pas partir à ce moment-là, c'est Jean-Jacques Bertrand qui l'a remplacé, je connaissais très bien, il comptait sur moi. Quand Robert Bourassa a été élu, mais Robert Bourassa, c'était un ami personnel que j'avais connu bien longtemps avant, que je tutoyais, que j'aimais bien. Puis j'ai dit, ben, je ne sais pas comment ça va se passer avec lui, mais je continue. Alors évidemment, il y avait un tas de libéraux qui voulaient me voir partir, mais je suis resté quand même. Alors, le résultat net de ça, c'est que j'ai été 8 ans et demi dans un poste où normalement, dans le même, où normalement, vous passez 2, 3, 4 ans. C'est une longévité... qui n'est pas dû à mes talents, encore une fois, c'est un concours de circonstances, mais qui est assez rare. Alors, comment je me suis adapté à tous ces gens-là? Évidemment, ces gens-là avaient des tempéraments et des méthodes de travail complètement différentes. Juste un exemple, Lesage et Bertrand étaient des maniaques de l'horaire. Bon, Johnson, absolument pas. Lesage arrivait à son bureau à 8h moins quart le matin, il fallait être là pas loin. Johnson arrivait à son bureau à 11h20. Alors, tout le gouvernement a changé d'horaire à cause de ça, là, parce qu'il lui finissait beaucoup plus tard que Lesage, qui lui, vers 6h, il s'en allait. Jean-Jacques Bertrand, pareil. Robert Bourassa, lui, était moins rigide. C'était un autre genre, et puis c'était plus flou. Ben, je me suis adapté à ça. Je me demandais comment ça se passerait. J'ai pas essayé de convertir ces gens-là à des nouvelles idées, parce que je voulais pas entreprendre des longues discussions pour lesquelles, des fois, il n'y avait pas le temps, il n'était pas préparé. Mais ça a donné un drôle de résultat. Ça a commencé avec Lesage et ça a continué. Je parle des 4 premiers ministres dont j'ai été le sous-ministre aux affaires fédérales provinciales et intergouvernementales. C'est que j'écrivais non seulement les discours de Lesage, mais à un moment donné, il a fallu écrire les mémoires du Québec pour les conférences fédérales provinciales. Et un jour, Jean Lesage m'a fait une leçon que j'ai jamais oubliée. J'ai décidé, je venais d'être nommé sous-ministre, il y avait une conférence fédérale provinciale qui s'en venait, il fallait préparer un mémoire pour le Québec, un mémoire de 15-20 pages pour dire ce qu'on voulait. Là. Moi, j'avais pas trop idée de ce qu'il voulait insérer dedans. Et j'ai cru bien faire en lui demandant un rendez-vous formel, en lui disant que je voulais discuter de projet politique et tout. Bon, il a dit c'est correct. Mais quand j'ai été le voir, j'ai vu qu'il était de mauvaise humeur, je ne sais plus quelle raison. D'abord, je n'ai jamais su quelle raison, mais il était de mauvais poil. Et là, je suis venu le voir pour lui demander des instructions sur quoi mettre dans le mémoire. Et là, il a quasiment donné un coup de poing à sa table. Il dit, Claude, il dit, vous êtes payé assez cher comme sous-ministre pour m'arriver avec des suggestions, mais trop cher pour m'arriver avec des questions de journaliste. Allez préparer un projet, puis on en parlera quand ça sera fini. J'ai compris qu'il ne voulait pas me donner d'instructions. Pas plus que j'en avais eu pendant que je préparais mes discours. J'avais demandé, en préparant des discours pour le sage, de quoi il veut parler. Je me faisais répondre par son personnel, ben, trouve une idée, puis s'il l'aime. Ça a toujours marché. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'ai été responsable, aussi avec mon monde, là, mes conseillers, de la rédaction de tous les mémoires du Québec aux conférences fédérales provinciales, de Le Sage jusqu'à y compris Robert Bourassa. Mais Robert Bourassa, il savait qu'on me détestait à Ottawa parce que je représentais la continuité des demandes autonomistes du Québec. Puis il a pensé un truc, je vous raconte ça, je l'ai dit dans un de mes livres, pas dans le nouveau qui vient de paraître, mais il a décidé, il m'a dit, Claude, tu vas écrire les mémoires, mais une fois qu'il sera fini, on va changer ton style. Fait que les fédéraux ne penseront pas que c'est toi. Moi, j'ai dit, t'es malade. Alors, effectivement, il a demandé à quelqu'un de re-rédiger mon discours pour que ça ne ressemble pas à mon style, pour qu'il puisse laisser entendre à Ottawa que tout en étant encore sous-ministre des Affaires fédérales provinciales et intergouvernementales, j'avais moins de prise qu'avant sur les politiques du gouvernement. Ce qui était faux. À Ottawa, évidemment, ils ont tout de suite saisi que c'était exactement mes idées qui étaient là. D'ailleurs, tout le monde a su que le truc dont je viens parler, puis Bourassa lui-même, ça l'amusait de le raconter à d'autres. Alors, c'était pas un grand secret d'État. Mais où je veux en venir, c'est que j'ai eu cette responsabilité-là avec mon monde. Puis quand on y pense sérieusement, s'il avait fallu qu'à chaque fois qu'il y avait une conférence fédérale provinciale, je rebondisse le premier ministre en lui disant « Bon, mais écoute, de quoi est-ce qu'on parle et qu'est-ce qu'on demande? » Là, j'aurais pu le prendre au dépourvu, au moment où il y a d'autres choses en tête. Il aurait pu me donner des instructions rapides, sans réfléchir, improvisées. J'aurais été pris avec ça. Il aurait fallu que je m'en sorte éventuellement. Alors, j'ai décidé que la méthode la plus simple, c'était, un, d'écrire un projet, deux, de le donner à son destinataire, le premier ministre, qui, lui, l'examine et le fait examiner par son monde, y compris moi. Puis après ça, on change des choses. C'est comme ça que alors, l'initiative est toujours venue, presque toujours venue de moi. Et ça, je le dis pas parce que j'ai un talent particulier, parce que c'est comme ça qu'en pratique, il faut que ça marche. Autrement, si vous attendez des instructions de celui dont vous êtes censé être le conseiller, bien à quoi ça sert qu'il vous ait comme conseiller?
Exactement. Il faut occuper l'espace comme conseiller. Et c'est quelques-uns des conseils et des règles à suivre dont vous faites part à vos lecteurs dans votre dernier livre. Monsieur Morin, on va s'arrêter ici pour tout de suite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci. À la prochaine.
Vous venez d'entendre l'entrevue que nous accordait Claude Morin, ancien ministre des Affaires intergouvernementales dans le gouvernement Lévesque, qui vient de faire paraître aux éditions du Boréal le 23 septembre dernier l'ouvrage intitulé « Je le dis comme je le pense ». Cet entretien se poursuit la semaine prochaine. Écoutez Nouveaux regards sur notre histoire, sur les ondes de Radio-VM. Au microphone, Éric Lebel. En cette deuxième partie de l'émission, nous vous présentons d'autres extraits des mémoires de Marcel Mas, cette figure de proue de l'histoire politique du Québec qui est décédée le 25 août dernier à l'âge de 78 ans. Il fut aussi un membre actif de la Société historique de Montréal. Cette entrevue est une rediffusion de l'émission présentée dans le cadre des Nouveaux regards sur notre histoire au printemps 2013, il y a un peu plus d'un an, ici même, à l'antenne de Radio-VM. Marcel Masse, rappelons-le, fut avec le père Fernand Lindsay, l'un des principaux artisans de la création du Festival de musique de Lanaudière.
Nous retrouvons aujourd'hui M. Marcel Masse, qui nous a déjà entretenu de son action politique sous Daniel Johnson et Jean-Jacques Bertrand, alors qu'il avait été élu député en 66 et en 70 sous la bannière de l'Union nationale. On a appris finalement qu'après le congrès à la chefferie de l'Union nationale en juin 71, M. Loubier a remporté la victoire de justesse par 16 voix. Et le parti, à ce moment-là, a changé de nom, devient Unité Québec. Et vous, vous avez siégé, M. Masse, comme député indépendant du 2 novembre 71 au 9 octobre 73. Et quand vous avez quitté à ce moment-là, je dirais, la politique provinciale, vous avez continué à vous impliquer dans votre comté et vous avez mené des activités de bénévolat dans la région de Joliette. On sait que vous êtes à l'origine du Festival d'été de la Naudière et aussi la construction d'un amphithéâtre. Pouvez-vous nous parler un peu de ces années de bénévolat?
Alors, il y a eu trois étapes à l'intérieur de ça. D'abord, quand j'étais à Joliette, que j'habitais Joliette, j'enseignais à Joliette dans les années 62. Donc, dès mon retour de mes études en Europe en 62, à l'automne 62, Fernand Lindsay, que je connaissais d'autre part à Joliette, qui était un grand pédagogue et qui enseignait au Collège de Joliette la philosophie, entre autres, et c'était un grand musicien. Alors, il avait mis sur pied les jeunesses musicales. Et moi, j'enseignais non pas au séminaire, mais dans le secteur privé, la commission scolaire régionale Lanaudière, et on a décidé d'utiliser son approche des jeunesses musicales qui était en force au collège, d'ouvrir ça et de permettre au secteur public de bénéficier de ça. Alors, je suis devenu président des jeunesses musicales de la région de Joliette et on a négocié avec la commission scolaire et à partir de là, on a eu régulièrement, dans les écoles publiques comme dans les écoles privées, des concerts, des explications, enfin tout ce que les jeunesses musicales peuvent apporter. Et puis, j'ai porté beaucoup intérêt à ce mouvement-là et même l'année suivante avec Fernand Lindsay et quelques autres, on a participé au congrès mondial des jeunesses musicales qui avait lieu à Majorque. Et tranquillement, Lindsay m'expliquait qu'il était toujours très intéressé au développement de la musique de la région. Lui se souvenait de ses expériences en Europe, des festivals de musique en Europe, et j'ai eu la même impression. J'ai participé à des festivals d'été en Europe, et puis de discussion en discussion, on est venu à l'idée de se poser la question, pourquoi pas de la musique à Joliette l'été comme on fait en Europe? Les jeunesses musicales, dont Lindsay était toujours le responsable, organisent trois concerts par l'Orchestre symphonique au cours de l'été 1977. Donc, un sondage réel, les concerts avaient lieu dans la cathédrale de Joliette et on a vu qu'il y avait de la part des mélomanes un enthousiasme et si on pouvait encadrer avec beaucoup de publicité, on pourrait peut-être augmenter le nombre et on pourrait peut-être vivre. Après ce sondage-là avec Lindsay, avec René Charrette et un petit groupe, on a décidé de créer une structure légale totalement indépendante de toutes les autres organisations de musique auxquelles Fernand se mêlait et qui étaient autour d'un compte unique et selon les besoins, on pigeait dans le compte pour aider tel groupe, puis tel groupe, tel groupe. Je pense que c'était une excellente idée. Mais, ceci étant dit, si on veut avoir un festival de grande envergure, il faut avoir son indépendance budgétaire. Donc, une structure légale. Et c'est la structure légale, la corporation, qui engage le directeur général. Donc, on a engagé Fernand Lindsay comme directeur de la programmation, directeur général de notre organisation, et nous sommes partis. Et en 78, 8 concerts autour de l'année Schubert, et pendant 3 ou 4 ans, là je me souviens plus exactement, j'ai été président de ce conseil, donc j'étais très impliqué dans cette question-là. La troisième étape, je me retrouve à Ottawa, cette fois-là, en 1987. Donc, je suis élu à Ottawa en 84. J'ai été 84 à 86 ministre du gouvernement dans le secteur des communications. Et là, aux discussions avec le comité de planification du gouvernement, au cabinet du ministre, je prends conscience que le gouvernement du Canada a un déficit touristique de plus en plus important avec les États-Unis. C'est ce que le ministère des Finances avance. Évidemment, à partir de là, comment contrer ce déficit? Quelles sont les mesures que le gouvernement peut faire pour retenir les Canadiens au Canada et, si possible, amener des touristes étrangers, disons, à cause de la frontière des Américains au Canada? On comprend que les Canadiens vont beaucoup dans le sud l'hiver. On ne peut quand même pas fermer l'hiver. Mais quand c'est rendu qu'ils vont faire beaucoup de ski dans le nord du Vermont, en plein hiver ou au Colorado, il y a des questions à se poser sur l'aménagement de nos propres stations. Et c'est la même chose sur le plan de la musique. Il y avait à ce moment-là Tanglewood, dans la région de Massachusetts, pour l'orchestre de Boston, un festival d'été qui attirait beaucoup, beaucoup de Québécois et d'Ontariens. Alors, on s'est dit, le gouvernement fédéral devrait financer la mise sur pied ou la consolidation d'organismes culturels. D'autant plus que les sondages que nous avons menés révélaient que 30 % du temps de tourisme est dans le secteur culturel. Il y a des gens qui vont à la pêche, ils viennent ici pour la nature, d'autres vont visiter des chutes de Niagara, mais dans l'ensemble, 30 % du temps de tourisme, c'est des cultures. C'est énorme! Et là, la question s'est posée, est-ce qu'on a, disons, des événements culturels qui attirent les Américains chez nous durant l'été, en plus de garder les Canadiens parce qu'ils trouvent, c'est sûr, exactement ce qu'ils voudraient. Donc, on a développé à travers le Canada un programme, on a fait des études, et pour chacune des provinces, on a fait des propositions, des montants assez importants pour revoir nos activités culturelles d'été. Juste pour vous donner deux exemples, en Ontario, il y avait le Festival Bernard Shaw, donc du théâtre, qui existait depuis plusieurs années, mais qui commençait à tirer la patte. On a investi beaucoup pour les encourager. On a créé plus ou moins un festival à Niagara-on-the-Lake pour Bernard Shaw. Quand le Québec arrive, c'est certain qu'on ne peut pas faire, je donne l'exemple de l'Ontario, c'était basé sur la langue, on ne peut pas ici attirer le nord des États-Unis et l'Ontario avec un spectacle de langue française. On peut peut-être garder notre monde, mais plus difficile d'attirer les autres. Et autour de la table, comme ministre, je participais évidemment à la discussion, moi j'en suis venu à l'idée, écoutez, on va aller du côté de la musique. La musique n'a pas de langue. Alors, on va, nous, développer la musique. Et c'est ainsi que le Festival de jazz de Montréal, le gouvernement canadien, par le ministère des Communications, a mis beaucoup d'argent là-dedans. Comme d'ailleurs, au départ, il en a mis beaucoup dans le Cirque du Soleil, mon ministère, pour aider la liberté à partir cette question-là. Alors, il y avait donc la question de musique classique par rapport à Tanglewood. Il faut permettre ici aux Québécois de trouver une équivalence de grande qualité de Tanglewood. Alors, la question s'est posée, où est-ce qu'on installe ça? Est-ce qu'on installe ça à Montréal? Est-ce qu'on installe ça ailleurs? Et finalement, Tanglewood, c'est en dehors de Boston. C'est pas à Boston, c'est à une centaine de kilomètres. Nous, il y a un endroit à Joliette, je le sais d'autant plus que j'ai été là, que j'ai été président et que je connaissais par l'intérieur. Alors, si on est à une bonne distance de Montréal, si on investit et on les aide à développer une structure de qualité internationale avec celle de Tanglewood ou d'autres qui existent, on aura rendu au Québec exactement le service qu'on rend dans les autres provinces. Alors, c'est ainsi que je convainc le ministère. Et en 1986, je me souviens de la date, le 13 mars, parce qu'on avait une autre activité pour le Parti conservateur, j'ai demandé au maire de Joliette, qui est Jacques Martin, qui est mon beau-frère, à René Charrette, qui est mon grand copain depuis le début et qui est président du Festival d'été La Radière, et Fernand Lindzip, le directeur artistique avec qui, comme on a vu tout à l'heure, j'avais beaucoup de relations dans ce domaine-là. Et je leur propose donc de faire un geste fort pour assurer la construction d'un amphithéâtre de haut niveau à Joliette pour le Festival d'été La Radière, au niveau de ce qu'on retrouve aux États-Unis. Alors, sans dire que Lindsay a été, estomaqué et de plus en plus hésitant. Il trouvait que le défi, la marche à monter était beaucoup trop haute, qu'on ne pourrait pas arriver à une chose semblable. Mon beau-frère, qui était le maire de Joliette, et je ne suis pas gêné de le dire, il y a un conflit d'intérêts parce que je connais tout ce monde-là et c'est parce que je les connais que je peux travailler avec eux autres. Il n'y a pas de cachette là-dedans. Lui est enthousiaste parce que ça attire évidemment vers sa ville un tourisme et un reflet très important. Et René Charette, qui, lui, est comme moi, un peu un organisateur, craint pas les défis. Alors, on finit par dire, il faut y aller. Et s'il y aura des problèmes, on les réglera, il faut y aller. Et ça n'a pas pris de temps. Un mois et demi après, le ministère était prêt. Il a annoncé sa volonté, une annonce publique d'une contribution de 2,5 millions, représentant en principe 50 %, autant que Québec apporte son apport. Il fallait, nous, les annoncer parce que dans l'ensemble des autres provinces, les projets étaient déjà démarrés. Alors, on a annoncé ce projet-là et... Évidemment, pour Québec, ils ont été saisis de ça parce que ça allait à l'encontre de tous les principes de leur planification culturelle. On peut pas avoir un organisme national ailleurs que dans la capitale nationale ou à Montréal, de sorte que pour eux, déjà au départ, cette proposition-là ne recevait pas leur accord. Alors j'hésite. Mon équipe est divisée. Par contre, pourquoi priver le Québec, Joliette, d'un équipement majeur qui allait faire son orgueil, une décision intellectuellement défendable et qui allait assurer la pérennité du festival. Des deux côtés de la balance, j'ai bien pesé tout ça et finalement, j'ai décidé d'appeler Robert Bourassa. Pour éviter tout conflit avec le gouvernement du Québec, il m'apparaissait évident que Bourassa était l'homme clé. J'ai profité d'ailleurs de son anniversaire. Je l'ai appelé, il était tout surpris que je l'appelle pour lui souhaiter bonne chance. Il a compris rapidement que c'était pas ça l'objet de mon téléphone. Je lui ai expliqué la situation. On avait là une possibilité importante, majeure pour le Québec. D'un autre côté, je voulais pas créer un conflit et puis une bataille avec le ministère de la Culture. C'était complètement idiot, ça aurait été idiot de ma part. J'avais des pressions de pousser cet investissement au Nouveau-Brunswick, où il y avait un festival de musique baroque à la Mecque, et pour eux, ça allait être très important, donc eux étaient favorables. Et j'ai tout expliqué ça à Robert Bourassa. Alors, il m'a dit, bon, écoute, donne-moi 24 heures, je vais regarder ça avec Mme Bacon, je te reviens. J'ai dit, très bien, je vais attendre ça. Il m'a rappelé dans les 48 heures, pris un petit peu plus de temps, pour me dire que, oui, c'est vrai que il y avait un problème avec Mme Bacon, la ministre n'était pas favorable à ça, que le ministère n'était pas favorable. Bon, ben j'ai dit, écoute, oublions ça. Puis alors là, elle dit, non, on va en parler un peu. Et finalement, à un moment donné, dans la conversation, il est venu le mot tourisme. C'était important au point de vue touristique. C'est pour ça qu'on faisait ça, pour ramener les touristes et garder les touristes au Canada, au Québec. Et ça l'a inspiré. Il s'est dit, ah, peut-être que Marc-Yvan Côté, qui est responsable ici à Québec pour l'aménagement du territoire et l'office de planification, peut-être que je vais lui parler, dit-il. Très bien. Peu de temps après, le lendemain, Marc-Yvan Côté m'a appelé pour savoir exactement de quoi on parlait, et puis il a compris fort bien, il dit très bien, je m'organise avec ça. Alors, et finalement, c'est comme ça que Québec a appuyé la décision du gouvernement fédéral. Et c'est comme ça qu'à Joliette, on trouve là un festival. Alors, je suis bien heureux de cet investissement pour la région de Joliette. Mais ça s'est attaché à deux, trois fils. Si Robert Bourassa avait été hésitant, parce que de toute façon, j'avais aucune retombée, d'aucun intérêt. Je voulais surtout pas faire une chicane avec le Québec, parce que ça ne m'apporte rien politiquement parlant, parce que moi, je suis élu dans Frontenac, et Frontenac, c'était de Fermont, ça n'avait plus rien à voir avec Joliette. Mais il arrive des situations semblables, au fond, où tous les conflits apparents sont sur la place, et en politique, c'est pas un endroit où on oublie des choses semblables. Alors, il fallait être prudent. Alors voilà deux thèmes de participation à la vie collective.
Et maintenant, la suite de cette entrevue avec Marcel Masse, qui se confie à notre collègue Robert Comeau.
Alors, M. Masse, on va revenir à votre carrière proprement politique. Vous vous présentez aux élections fédérales une première fois en 1974 dans la Belle sous Robert Stanfield. Et en 80, dans la Belle aussi, sous Joe Clark. Et après ces deux défaites-là, vous êtes finalement élu le 4 septembre 84 dans Frontenac avec le chef Brian Mulroney. Alors, revenons un peu sur le contexte de cette période-là. Qu'est-ce qui vous amène à vous présenter en 74 dans la Belle sous Robert Stanfield?
C'est que les années 60, moi, j'étais amené à la politique à Québec avec Johnson pour les raisons constitutionnelles. Je ne suis pas allé en politique pour le développement économique ou le développement humanitaire. Moi, je suis venu carrément par l'histoire et la question constitutionnelle. On a vu ces matières-là. Alors, dans cet esprit-là, avec Daniel Johnson, lorsqu'il est arrivé le congrès de nomination pour le Parti conservateur à Ottawa, M. John Diefenbaker a été plus ou moins forcé à démissionner. Et il y a plusieurs personnes, dont Duff Roblin, qui était le premier ministre du Manitoba, et M. Stanfield, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, entre autres, se présentent au Congrès. Au début, M. Johnson était plutôt favorable à M. Roblin, qu'il connaissait bien, et tranquillement, il a réalisé que M. Stanfield était peut-être celui qui allait être le plus près de ses positions à lui. Et M. Stanfield a été élu. Et M. Stanfield, pour l'Union nationale, devenait l'interlocuteur, le véhicule pour faire connaître notre position de l'Union nationale du Québec au gouvernement fédéral. Pas par Trudeau, évidemment, mais par le parti d'opposition. Et c'est dans cet esprit-là que les élections de 68 arrivent. Mais avant les élections de 68, M. Stanfield, dans une réunion de quelques jours à la Maison Montmorency à Québec, à la fin des années 67, je crois, une réunion dirigée par Marcel Faribault, qui était le conseiller constitutionnel de M. Johnson, et un certain nombre de personnes dont j'y étais, on a discuté de la théorie des deux nations. Est-ce que ça peut être acceptable? Il faut un interlocuteur pour nous au Québec. Est-ce que M. Stanfield peut être notre interlocuteur en épousant l'idée d'une ouverture vers le Québec par une rédaction de constitution qui tiendrait compte de l'existence non pas simplement des deux peuples fondateurs, mais de deux nations? Et M. Stanfield accepte cette idée-là. Qui on retrouve comme candidat pour M. Stanfield? M. Marcel Faribault au Québec. M. Yves Ryan, qui était maire de Montréal-Nord, qui est le frère de Claude Ryan du Devoir, était candidat. M. Julien Chouinard, qui était sous-ministre de l'Union nationale pour la justice, se retrouve dans ma tente candidat. Il finira d'ailleurs ses jours à la Cour suprême du Canada. On y retrouve beaucoup d'autres noms très connus au Québec. Une élection très importante. Et M. Stanfield, parce qu'il a accepté l'idée de deux nations, n'a pas la même écoute du Canada anglais, a des problèmes dans son propre parti qui lui reproche d'avoir accepté cette idée-là, et il entre en campagne contre Pierre-Éliott Trudeau. Et Pierre-Éliott Trudeau, en 68, désavoue le rapport Laurent O'Donton, désavoue l'idée qu'il y a deux nations, et fait porter son programme sur deux thèmes. Le premier thème, il y a deux langues au Canada et non pas deux nations. Moi, je m'engage à faire une loi sur les langues pour permettre l'utilisation et de mettre en valeur deux langues.
En fait, Trudeau rejette le biculturalisme. En fait, ce que vous appelez les deux nations, c'est le biculturalisme et il remplace ça par le multiculturalisme.
C'est ça.
Ça, c'est la loi de 69 de Trudeau.
Exactement. Exactement.
Donc, au fond, les idées de Stanfield n'ont pas passé du tout au Canada anglais, ce qui explique qu'en 74, l'échec du Parti conservateur.
Oui, mais j'irai plus loin. C'est pas le Canada anglais qui a rejeté les choses. Peut-être, mais c'est d'abord le Québec qui a rejeté ça.
Parce que c'est la Trudeau-manie au Québec, là, à ce moment-là.
Oui, mais la Trudeau-manie, elle s'inscrit dans les votes et elle s'inscrit dans l'histoire. Alors, quand vous regardez au Canada, aux élections de 68, Trudeau a eu au Canada 45 % des votes et au Québec 53 %. Donc, vous voyez la différence entre les deux, là. Et quand vous regardez pour M. Stanfield a eu 31 % des votes et 21 %. Mais ce 45 % et ce 53 %, il est inscrit pour longtemps dans l'esprit du Canada anglais. Et ça, le Québec a voté en toute connaissance de cause. Trudeau dit, il y a deux langues. Et l'Union nationale, M. Stanfield disait, il y a deux cultures, deux nations. Le Québec a pris son choix. Dès 68, il a fait son choix à 53.
Dès 68 et jusqu'en 84, il va être sur cette vague-là.
Et revenons juste, vous avez, en 72, il y a une élection. Trudeau ne peut pas recréer la Trudeau-manie. Mais l'élection porte sur l'économie. Et au Canada anglais, il n'a plus que 38 % du vote. Mais au Québec, il y a 48 % du vote. Et le résultat, c'est qu'avec ses 109 députés, il s'accroche au pouvoir en 72. Si le Québec, à 49 % avait voté comme le reste du Canada, disons à 35 % pour Stanfield, M. Trudeau n'aurait pas pu s'accrocher au pouvoir en 72. Mais il est là encore en 72. Et arrivent les élections de 74. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai terminé l'Union nationale. En 73, 72, je ne pouvais pas être candidat. J'étais encore député de l'Union nationale. Mais en 74...
Là, vous vous présentez dans la belle, donc sous Stanfield encore.
C'est exactement. À la fin de la période Union nationale 73, M. Stanfield et des amis communs, viennent me voir pour me dire « Il faudrait que vous soyez candidat pour le Parti conservateur. Il faut, au Québec, des gens qui témoignent qu'ils sont d'accord avec la position de Stanfield et n'ont pas laissé Stanfield seul porter contre les Québécois la volonté de cette idée de deux nations. » Et c'est dans cet esprit-là que, finalement, j'ai accepté d'être candidat le 8 juillet dans la Belle, c'est la région de Saint-Jérôme, l'Annonciation... Saint-Agathe, Saint-Adèle, et j'ai été défait par moins de 1500 votes, mais j'ai été défait de toute façon. C'est encore les libéraux qui ont été réélus et qui ont repris le pouvoir. Et encore là, regardez à ce moment-là. Au Canada, M. Trudeau a 43 % du vote. Au Québec, on continue, 54 % du vote, 10 % de plus que le reste du Canada. Mettez-vous dans la peau là, du Canada anglais, qui voit au Québec là, des discussions, mais quand arrive le temps de voter, au fédéral, les Québécois, dans des proportions qui dépassent le reste du Canada, dans des montants très forts, imposent Trudeau au Canada. Alors, mettez-vous dans la peau du Canada anglais. Qui représente le Québec? C'est ce que Trudeau dit. C'est là qu'il y a une confusion énorme entre le message de Trudeau au Canada anglais, au fédéral, élu fortement par le Québec, et le message de Bourassa, puis de René Lévesque, à Québec, avec des pourcentages de vote moins élevés. René Lévesque n'a jamais eu 54 % de l'électorat du Québec. Trudeau l'avait. M. Bourassa n'a jamais eu 54 % Trudeau l'avait. Le même type d'électeur, selon les deux niveaux, imposait Trudeau à Ottawa et puis à Québec, dénonçait l'action de Trudeau. Alors, on a créé une confusion totale. Mais dans cette confusion, pour le Canada anglais, le signal du Québec, c'était le vote largement majoritaire, plus fort que tous les autres au Québec, le vote en faveur de Trudeau.
Il y a eu une deuxième fois où vous êtes présenté, c'est en 80. Vous êtes toujours candidat dans la belle avec le nouveau chef conservateur Joe Clark. Trudeau avait, lui, à ce moment-là, je pense, annoncé son départ, mais il revient pour l'élection de 80. Et il va s'empresser, évidemment, de combattre le oui au référendum. Quand il a su qu'il y avait référendum, donc on va avoir Trudeau comme adversaire principal dans ce premier référendum.
Alors, encore une fois, 80, c'est Joe Clark. M. Stanfield a démissionné, il n'a pas réussi à gagner. Joe Clark est quand même un leader du Parti conservateur, très sensible à la réalité québécoise, très sensible à notre culture, à notre proposition. Il est élu de peine et de misère. Il forme un gouvernement minoritaire. Et peu de temps après, en chambre, au premier dépôt du budget de John Crosby, le gouvernement est défait. Et Trudeau, qui avait déjà démissionné, comme vous avez souligné, revient pour se représenter et l'élection est très importante. Il y a le Parti québécois et là, il y a un retour de Trudeau. Et le Québec se prononce. Qu'est-ce qu'il dit, le Québec? Plus fort que jamais depuis 68. 68 % des Québécois ont voté pour Pierre-Éliott Trudeau et le Parti libéral. J'insiste, c'est incroyable. On a l'impression de se retrouver dans des votes africains. 68 % Pendant ce temps-là, on votait à 40, 43 % pour le Parti québécois au Québec. Alors, Trudeau, qui n'avait pas réussi jusqu'à maintenant à rapatrier la Constitution, il est revenu que pour ça. Et nous l'avons imposé au Canada anglais. Parce que pendant ce temps-là, les Canadiens anglais ne votaient qu'à 44 % pour Trudeau. Nous, 68 % Alors, mettez-vous dans la peau des gens en Ontario ou dans l'Ouest, là. Qui est le signal le plus fort? l'existence du PQ à Québec ou ce 68 % plus que 20 % de différence avec le vote qu'il a obtenu au Canada anglais.
Mais il n'y avait pas un manque de leadership de Joe Clark à ce moment-là?
Peut-être toutes les raisons au monde, hein? Mais il y a un manque de leadership du Québec, de tous ses chefs québécois, que ce soit ses chefs québécois au fédéral ou ses chefs québécois au provincial. Mais reste que ces chefs-là, on les glisse toujours sous le tapis parce qu'ils nous embêtent. Mais c'est nous-mêmes qui votons de façon tout à fait différente, mais très différente. À la limite, on pourrait comprendre de ne pas mettre les deux œufs dans le même panier. Mais là, c'est plus que les deux œufs dans le même panier parce qu'on est rendu à des pourcentages très, 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 très élevés. De sorte que Trudeau a toute la crédibilité voulue au Canada pour rapatrier la Constitution, imposer la Constitution comme nous, on a imposé Trudeau. Et à partir de là, l'Assemblée nationale refuse la Constitution. On en est encore à l'intérieur de ça. Mais pendant ce temps-là, la Constitution, elle existe de toute façon et le Québec est obligé de la respecter. Mais peut-on accuser le Canada anglais? Honnêtement, peut-on accuser la Colombie-Britannique ou l'Ontario d'avoir forcé ce rapatriement-là? Je pense qu'il faut prendre et assumer une partie de notre action. Action qu'on veut beaucoup, beaucoup oublier.
Oui, sauf que Trudeau, quand il a annoncé un changement, tous les gens s'attendaient à un autre type de changement. C'était, bien sûr, il va en profiter, il va s'empresser tout de suite après la défaite de l'évêque d'imposer d'une certaine façon et la charte et la nouvelle constitution.
C'est vrai.
Et ça s'est fait contre la volonté de l'Assemblée nationale.
Vous avez raison, c'est vrai. J'étais moi-même à cette réunion durant le référendum.
Où il y a un grand changement. Il y a eu...
Je représentais d'ailleurs le parti conservateur. On peut prétexter ça, mais les votes ont commencé en 68. C'est l'accumulation, là. Quand on met tout ça au tableau, on voit un courant qui a lieu de nous inquiéter. En tout cas, le résultat nous inquiète.
Parce qu'au fond, le Parti libéral a toujours été le parti des francophones, hein, surtout même des provinces maritimes, dans l'Ouest. Alors que le Parti conservateur, depuis la Première Guerre mondiale, avait une réputation terrible avec la conscription. Oui. Et c'est cette image-là du Parti conservateur qui s'est maintenue au 20e siècle.
C'est vrai. Mais n'oubliez pas que...
Il y a eu des changements. Oui. Vous l'avez indiqué avec Stanfield, avec Clark et surtout avec Mulroney. Oui. Mais il reste que pour beaucoup de la population, le Parti conservateur reste entaché avec la l'histoire
mais
de la conscription.
Le Parti conservateur au Québec appartient aux Québécois. C'est à eux de le changer. C'est pas aux gens de l'Ontario à venir régler le problème du Parti conservateur au Québec. C'est à nous à faire ces choses-là. On peut jamais comme peuple penser que l'autre va faire notre travail. Je suis d'accord avec vous que les Québécois, pour diverses raisons, ont mis les œufs dans le panier du Parti libéral pendant des années de temps. Mais ils en étaient satisfaits puisqu'ils n'ont pas fait l'effort de se donner un deuxième parti qui serait plus près de leur doléance et d'investir là-dedans. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait. J'ai pas craint de le témoigner. J'ai essayé, je l'ai fait. J'ai été candidat en 74, vous l'avez rappelé, en 80. Le Parti conservateur avait 11 % du vote, 12 % du vote. Mais reste que, en démocratie, nous sommes le peuple, nous, les électeurs, responsables des actions que nous faisons ou que nous ne faisons pas. Quand à un moment donné est arrivé, là, on a fini par comprendre, et quand Mulroney est devenu chef du Parti conservateur, il a réussi en 84. N'oubliez pas que jusqu'au moment des élections, le Parti libéral de Turner était très en avant de Mulroney. Les élections étaient déclenchées en juillet 84, lorsque j'ai accepté à la demande de Brian d'être candidat. Mais à ce moment-là, il y avait un écart énorme en faveur du Parti libéral.
Si on se replace juste un peu avant les élections de 84, il faut voir que René Lévesque, qui avait été réélu, lui, en 81, mais après l'échec de 82, de son point de vue, Lévesque, donc, s'était engagé à soutenir publiquement le Parti progressiste conservateur et à contribuer au succès électoral de Mulroney, qui a été élu chef en 83. Alors, cette victoire de 1984, on peut dire que ça marque une rupture au Québec. C'est vraiment la fin du grand règne des libéraux. Et à ce moment-là, Brian Mulroney obtient 212 des 282 sièges, dont 58 au Québec. Donc, je pense que c'était un point tournant, une élection absolument importante, hein, qui marque une rupture. Et c'est la fin du Parti libéral du Canada au Québec et un désaveu, je pense, de toute la politique du fédéralisme centralisateur. Ouais.
Mais vous avez raison de souligner l'appui de René Lévesque. Parce qu'aux élections d'avant, de 1974, il y avait toujours une tentative pour les souverainistes d'avoir un parti au fédéral. Deuxièmement, il y avait l'immensité du Parti Crédit Social, plus ou moins financé par le Parti libéral, qui répandait des candidats un peu partout et qui divisait le vote. Alors, si les Québécois avaient fait un effort par rapport au Parti libéral, peut-être que les choses se seraient passées plus rapidement. Mais de toute façon, après le rapatriement de la Constitution, le Parti libéral affaibli, le Crédit social s'est affaibli également, parce que je me souviens, en 1974, on avait deux candidats créditistes dans le comté de La Belle, où le chef du parti, poussé par André Ouellette, avait finalement accepté un autre candidat. Alors, il y a tout un monde là qui grenouille en politique. En 1984, les jeux sont plus clairs. Le Parti conservateur est structuré. Brian Mulroney vient du Québec. Mais malgré ça, je tiens à répéter, au début des élections, le Parti libéral de Turner était encore 15 à 20 points en avant. Mais durant les élections, ces points-là, il les a perdus.
Donc, en 84, c'était la troisième fois que vous vous présentiez, cette fois-là dans Frontenac. Et cette fois, les libéraux, donc, ont perdu près de la moitié des suffrages de 1980. Et vous êtes élu avec une très forte majorité, plus de 71% le 4 septembre 84. On reviendra sur cet aspect-là pour aborder votre rôle comme ministre à partir de 88.
Ce sera avec plaisir.
Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la quatrième d'une série de 7 émissions consacrées à Marcel Mas, décédé le 25 août dernier à Sainte-Agathe-des-Monts. Nous diffuserons d'autres extraits de ce témoignage la semaine prochaine. Ainsi s'achève cette émission et nous espérons que vous y avez trouvé plaisir et enseignement. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site Internet de la Société historique de Montréal au www.sociétéhistoriquedemontréal.org en un mot et sans accent. Nouveau regard sur notre histoire est une réalisation de Jean-Charles Désiel. Ici Éric Lebel qui vous souhaite une bonne fin de semaine et vous invite samedi prochain, 18h, sur les ondes de Radio-VM, à un autre rendez-vous avec notre histoire et nos racines. Thank you.